Emmanuel Ménard, donc, pour cette deuxième partie. Alors, je rappelle que vous êtes député de la circonscription de l'Hérault de Béziers. Mais dans cette deuxième partie, j'aimerais, après avoir fait un petit peu un bilan de ce que vous faites à l'Assemblée nationale, que l'on revienne dans votre circonscription, puisque vous y revenez régulièrement, et vous le disiez tout à l'heure en l'évoquant, il y a des choses à faire remonter. Je précise quand même que depuis les dernières élections municipales, vous êtes également conseillère municipale
et communautaire.
Voilà. Donc vous siégez à l'un et à l'autre.
Absolument.
Voilà. Mais de manière... Alors de quelle manière? Parce que c'est peut-être pas évident, justement.
Alors en fait, j'en ai parlé donc avec Robert Ménard, le maire de Béziers.
Que vous connaissez bien.
C'est assez facile pour moi de parler avec lui, puisqu'il est mon mari. Et en fait, c'est vrai que par rapport au mandat précédent, où moi, j'étais pas élue municipale ni communautaire, j'ai émis ce souhait-là parce que ça me permet de... vous savez, c'est pas pareil quand vous assistez à un conseil municipal et que vous êtes conseiller municipal ou un conseil communautaire en tant que conseiller communautaire ou quand vous entendez parler des dossiers. Alors moi, j'avais aucun problème, voilà, évidemment, de communication, ni évidemment avec le maire, ni même avec ses services et ses équipes, parce que je les connais bien et que je peux aller discuter avec eux quand j'ai un problème parlementaire ou législatif qui intéresse la ville ou qui intéresse la circonscription. C'est facile pour moi d'aller discuter avec les uns et les autres, mais parfois, en fait, je me rendais compte que j'avais pas la connaissance de certains...
Vous n'aviez pas le même accès aux dossiers,
voilà,
en fait.
De certains dossiers, et que c'était plus facile pour moi si je faisais partie de l'équipe en tant que conseillère municipale et communautaire. Je précise quand même que je n'ai pas de délégation parce que je n'aurais pas le temps de tout faire. Je ne peux pas être à la fois députée très présente à Paris et très présente aussi dans ma circonscription et en plus avoir une charge
municipale et communautaire.
Voilà. Donc je n'ai pas de délégation ni à la ville de Béziers ni à l'agglo, et donc je n'ai pas d'indemnité non plus à la ville de Béziers parce que je n'ai pas de délégation. Donc voilà, comme ça les choses sont très claires pour
voilà.
tout.
Mais vous avez accès au dossier, ce qui enrichit vos connaissances.
Exactement, et donc je connais aussi mieux du coup le personnel municipal ou communautaire, et ça me permet d'avoir quand j'ai des questions à poser qui peuvent m'aider pour le travail dans l'hémicycle à Paris, ça me permet d'avoir un accès plus direct, c'est plus facile.
Mais alors justement,
plus efficace.
Justement, c'est la question que je pose traditionnellement quand je reçois un député ou une députée. On dit qu'un député, il est le député de la nation, mais pourtant il l'est d'une circonscription, ce qui est paradoxe à la première vue. Et pourtant. Alors comment ça, qu'est-ce que vous avez besoin de faire remonter provenant de Béziers à Paris?
Ben moi, en fait, je tiens beaucoup description du député de la circonscription. C'est vrai qu'on est député de la nation et sur des sujets que j'ai pu aborder, comme tout à l'heure, sur
national.
La bioéthique, c'est pas un intérêt propre à ma circonscription, c'est un intérêt national. Mais j'ai des sujets et des préoccupations propres à ma circonscription. Écoutez, je vais vous prendre un exemple tout bête, hein, mais la plupart des agriculteurs sur ma circonscription sont pas des agriculteurs, ce sont des viticulteurs. Donc moi, j'ai un sujet particulier qui a trait à l'agriculture, c'est ça, c'est la viticulture, avec des spécificités, avec des préoccupations propres. On a parlé de la taxe Trump. Tiens, bonne nouvelle d'ailleurs, puisque on a appris que normalement elle devrait cesser. Tant mieux pour nos viticulteurs. Mais enfin, tout ça fait des préoccupations et des sujets qui sont très spécifiques et qui n'ont rien à voir avec la culture de la betterave dans le nord de la France.
Par exemple, est-ce que il vous arrive de travailler conjointement avec, par exemple, le député de Narbonne, Alain Perea, ou d'autres députés de l'Hérault ou du Gard?
Alors c'est amusant parce que j'en parlais justement en venant. Effectivement, avec Alain Perea, on a travaillé ensemble il n'y a pas si longtemps que ça sur les questions de chasse.
Lui est un chasseur invétéré.
Voilà. Mais c'est vrai que dans l'hémicycle, alors on ne travaille pas spécialement en amont des questions, pas toujours ensemble, mais on se retrouve sur certains sujets quand il s'agit de la viticulture. Et quand je parle des viticulteurs de l'Hérault, souvent on se rejoint sur les préoccupations et lui parle des viticulteurs de l'Aude, évidemment, parce que les préoccupations là sont similaires. Mais c'est vrai qu'on a moins de points communs avec les agriculteurs de Bretagne ou du nord de la France.
Oui, évidemment. Quels sont les autres points? Alors la spécificité bitéroise que vous avez besoin de faire remonter à Paris.
En fait, sur Béziers même, ce qui concerne la ville de Béziers même, je me suis beaucoup bagarrée pour tout ce qui était le plan Action Cœur de Ville, donc le soutien au commerce, pas seulement au commerce, mais aux commerçants du centre-ville de Béziers. Ça, c'est vraiment des spécificités aussi.
La ville est éligible également
à la ville de Béziers, effectivement, bénéficie du plan Action Cœur de Ville, mais ce sont des spécificités, alors là, qui ne sont pas liées au sud, mais qui sont liées aux villes moyennes. Et on a plus de 200 villes qui ont été éligibles à ce dispositif. C'est vrai qu'il est très bien, c'est un bon. Là, c'était vraiment une bonne mesure qui a été prise par le gouvernement, mais il me semblait qu'on pouvait l'améliorer. Donc, je n'ai eu de cesse depuis plus de 2 ans maintenant de proposer des choses qui pourraient améliorer encore le dispositif et qui pourraient le rendre plus efficace. Alors, sur certains points, je suis entendue. Sur d'autres, effectivement, ça a des implications financières, hein, donc on m'oppose aussi des questions budgétaires que je peux entendre. Mmh. Mais c'est vrai que le centre-ville de Béziers, ça a été un de mes grands combats, mais pas seulement, parce que là, on parle de Béziers. Si je reprends encore là le territoire de ma circonscription, les questions de l'éolien ont été très d'actualité, beaucoup d'actualité il y a encore quelques semaines, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait un parc éolien qui était prévu d'être implanté à Puissy. On s'est beaucoup bagarré contre le parc éolien de Puissalicon. On a obtenu gain de cause. Personne n'en voulait, de toute façon, de ce parc. Donc,
Y compris les élus locaux.
Ils faisaient l'unanimité contre lui. Ça n'a pas toujours été très clair avec la mairie de Puissalicon, justement. Mais finalement, ils ont dit qu'ils se sont rendus compte que c'était une bêtise. Et donc, en fait, tout le monde était contre. Donc, ça aurait été difficile, je pense, pour le préfet de l'imposer, puisque que ce soit les habitants ou les élus, que ce soit les maires des villages concernés, pas seulement celui de Puissalicon, mais les communes autour, ou que ce soit les communautés de communes. L'agglo de Béziers était concernée, mais pas qu'elle. Il y avait d'autres communautés de communes. Il y avait les Avant-Mons. Tout le monde était contre ce projet. On a réussi à faire en sorte que le commissaire enquêteur d'abord, puis le préfet, nous entendent. Et donc l'avis, finalement, a été rendu et négatif. Donc ce projet éolien n'aura pas lieu. Mais je peux vous citer d'autres questions.
Sur ce projet, Emmanuel Ménard, justement, pouvez-vous être plus précise? Qu'est-ce qui fait que vous avez contesté ce projet? Parce que parfois, les gens se disent « Bon, les écologistes ont voulu de l'éolien. Maintenant, on n'en veut plus ». Les gens ne comprennent pas toujours le pourquoi des choses.
C'est vrai que c'est pas très commun, mais les études et les progrès qu'on fait maintenant pour cerner un peu mieux cette énergie éolienne fait que, en fait, on parle d'énergie verte, elle n'est pas si verte que ça. D'abord, c'est très polluant en termes de métaux rares, en termes de tonnes de béton qu'il faut transporter et installer pour maintenir les mâts. Bon, tout ça, ça a effectivement un impact écologique assez important par rapport à l'effet escompté. Et on parle toujours des bénéfices de l'éolien en parlant on part du principe que l'éolien tourne à 100%. En réalité, quand on regarde, l'éolien, il ne tourne pas à 100%, il tourne à 20, 21, 23%.
Même chez nous,
même à Narbonne où il y a beaucoup de vent. donc c'est pour ça, voilà. Et puis après, il y a tout, et ça c'était deux aspects, moi, sur lesquels j'ai beaucoup insisté. Il y avait l'impact paysager qui était énorme, parce que là, c'est vraiment, ça défigurait là où l'industriel souhaitait les implanter, ça défigurait le paysage, et il y avait un impact environnemental également énorme sur la faune, notamment en termes d'oiseaux et en termes de chauves-souris. Alors ça paraît un peu anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a une contradiction, parce qu'en fait il y a une population de chauves-souris à cet endroit. Les chauves-souris, et notamment les pipistrelles, sont des petites bêtes très gentilles qui aident les viticulteurs, parce qu'elles vont attaquer et manger les parasites qui s'attaquent à la vigne. Et donc, c'est un peu paradoxal.
Donc, elles ont un rôle écologique.
Un rôle écologique important. Et si vous discutez avec les viticulteurs, ils le reconnaissent tout à fait. Ça veut dire que ça diminue l'utilisation de pesticides par ces mêmes viticulteurs sur leur vigne. Donc, c'est un peu, vous savez, c'est un peu paradoxal et un peu contradictoire de dire on va mettre de l'éolien parce que c'est une énergie prétendument propre et verte, mais paradoxalement, et en contrepartie, ben comme on va disséminer les chauves-souris qui sont sur ces parcelles-là, ben les viticulteurs qui sont en dessous, parce qu'il s'avère que c'était effectivement implanté sur des parcelles de vignes, les viticulteurs qui seront en dessous ne bénéficieront plus des chauves-souris qui les aident à maintenir produire leur vigne propre. Ouais. Et donc, ils vont devoir utiliser plus de pesticides et avoir un vin qui sera moins...
Oui, donc,
voilà. Donc, vous voyez...
Ça démontre les limites, finalement, de l'éolien.
Ça démontre les limites de l'éolien. Puis, en fait, il faut peser l'avantage, enfin, les avantages et les désavantages. Là, il se trouve que dans ce projet-là, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Mmh. Voilà.
Et alors, quand on les maire, ou comme vous, conseillère municipale et conseillère communautaire, donc s'intéressant aussi au local, quelles sont, dans un pays comme le nôtre, Narbonne ou Béziers, même type de climat, les alternatives que vous proposez?
Bah d'abord, on parie quand même beaucoup plus sur l'éolien en mer, même s'il n'est pas sans poser de problème non plus. Hein, et moi, je suis en train de travailler beaucoup sur ces questions-là, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, pour les paysages, on a dit, bon, allez, allons mettre l'éolien en mer. Il y a du vent, ça embêtera personne, parfois un peu les pêcheurs quand même, mais ce sera moins... il y aura moins d'impact, y compris sur le paysage et sur la faune et la flore qui sont sur le terrestre, évidemment, par définition. Apparemment, les impacts sur les poissons et sur est assez peu important. En revanche, le coût, là je parle du coût financier, paraît apparemment beaucoup plus important, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur les questions, beaucoup plus important que ce qu'on nous annonce, et donc beaucoup moins avantageux que ce qu'on peut
espérer. Surtout en phase expérimentale, puisqu'on en est, qu'à la phase expérimentale. On marque une deuxième pause, Emmanuel Ménard, et on vous retrouve pour ce que j'appelle l'interview côté face, un côté un petit peu plus personnel.
Entendu.